Il est 8h sur l'écho des planches, vous êtes en direct du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, le point presse du 15 juillet, animé par Arnaud Laporte, en présence de Léo Gabriadze pour Ramona, d'Israël Galban pour La Fiesta, de Thomas Quillardet pour Tristesse et Joie dans La Vie des girafes. Bonne écoute à tous.
Ça tourne, super. Bonjour, bienvenue à ce 6e point presse du Festival d'Avignon. Des rendez-vous tout au long du festival dans cette petite cour du cloître Saint-Louis pour donner un petit aperçu des spectacles qui composent cette 71e édition. Un exercice rapide, voilà, à l'essentiel, et surtout il s'agit de pas trop déflorer non plus le plaisir des spectateurs à venir. On va évoquer ce matin trois spectacles. Ramona, on va en parler dans un instant avec Léo Gabriadze. Nous parlerons de La Fiesta avec Israël Galvan et puis de Tristesse et Joie dans La Vie des girafes avec Thomas Quillardet. Christina Strelkova est avec nous pour, et on la remercie pour traduire cet entretien avec Léo Gabriadze, qui est donc là pour parler du spectacle de son père, Rezo, qui signe le texte, mise en scène, marionnette, scénographie. Il s'agit donc de Ramona. Rezo Gabriadze, qui est un artiste complet, qui a fondé un théâtre à Tbilissi en 1981. Continuer à travailler pour le cinéma, en développant aussi un travail sur la marionnette. Ramona, c'est une histoire d'amour entre deux locomotives, Ramona et Hermon, dont les rails vont croiser la route d'un cirque. Dans ce spectacle, il y a des marionnettistes, il y a des voix enregistrées, il y a des musiques enregistrées. Alors, première question, peut-être très pratique, mais comment Rezo Gabriadze construit un spectacle comme celui-ci ? Est-ce qu'il y a d'abord l'histoire, le texte?
Вас поприветствовали, сказали... А? Можно без микрофона? И вы за микро, c'est possible?
Bah, oui, oui.
Alors, déjà, vous dites bienvenue au festival. Oh, извините. Он вас... Вопрос такой, он спрашивает, как вы построили... Как ваш отец построил...
Should I speak in the microphone? Отец, как правило, пишет про свое детство и про свои яркие впечатления, эмоции.
Petit bout.
Alors, il dit que son père, Rezo, il va toujours à partir de son enfance. Donc, il s'inspire de ses souvenirs d'enfance.
Et, что касается вот паровозов и цирка, это два больших впечатления из детства, которые он вспомнил, эмоциональные эти какие воспоминания.
Et les deux thématiques qui sont touchées, c'est le cirque et les trains. Donc, et ça, c'était deux moments les plus marquants. Donc, il essayait de se ressouvenir son émotion quand il a fait les premières visites du cirque ou observé les trains.
Il a décidé de l'abîmer dans une histoire.
Et du coup, il a voulu de ressembler ces deux moments très forts.
Наверное, были еще другие причины, но это, кроме него, наверное, никто не может ответить. Я, к сожалению, в полной мере не смогу ответить.
Peut-être qu'il y avait d'autres raisons, mais je suis incapable de répondre.
Mais il y a cette envie-là, bien sûr, mais la question de départ, c'était est-ce qu'il écrit d'abord une trame narrative? Et puis ensuite, on va en parler, des marionnettes, les comédiens, les voix. Mais est-ce que d'abord, il y a une trame de son histoire? Qu'est-ce qu'il écrit?
On spрашивает, а есть ли вначале, как бы вот отталкивается сценарий, да, как он пишет сначала что-то первое?
Он начинает с рисунка, как правило. Вот первые впечатления, первые мысли. Сперва он рисует. А потом начинает у него рисунок и рассказ, как правило, идут параллельно.
Tout d'abord, il dessine, il peint, et ensuite après, donc la parole avec le dessin, ils vont parallèlement. Mais tout d'abord, il fait des croquis, des esquisses. C'est ces dessins qui vont être le trame aussi narrative à partir de ses souvenirs d'enfance.
Он вообще считает себя художником, который он считает себя художником, который умеет писать.
Il se considère autant qu'artiste, peintre, narratif. Et qui sait, donc, en russe, on dit l'artiste, donc peintre, qui sait écrire. Voilà.
Bah, lui, il sait tout faire, ça c'est encore autre chose. Des personnages dessinés puis sculptés, comment... Ce passage à la marionnette, quelle importance ça a dans justement le développement de l'histoire, passer du dessin à la sculpture.
On a dit que vous exposez des personnages rissonnés et architecturés, да?
Et
du coup, 2D à 3D. А как мы отходим от рисунка, да?
Резо первое образование, которое он получил еще маленьким мальчиком, это был скульптуру. И вот, значит, у него он сам лепит их. Так что вот из 2D в 3D он переводит в пластилине.
Пластилине,
да?
Да.
Alors, donc, de dessin à la sculpture, il a fait, en fait, il a suivi un enseignement de sculpteur. Donc, pour passer au dessin en 3D, il s'appuie sur la pâte à modeler. Donc, c'est lui-même qui.
В основном работа идет в мастерских. Он пишет быстро, но вот куклы делать, одевает их, это все время занимает. Ну, и работа в мастерской в основном работает.
Dans le théâtre, il y a aussi des ateliers. Et c'est là-bas que... D'ailleurs, la salle d'atelier, elle est largement plus grande que la scène, que le plateau. Et donc, dans l'atelier, ils font des marionnettes.
La musique a une grande importance aussi dans le rythme, dans la construction du spectacle. Est-ce que vous savez comment il choisit les musiques et quelles fonctions ont les musiques dans les spectacles de votre père ?
Ну, с музыкой бывает по-разному. Бывает, что находится сперва песня, и вокруг нее строится эпизод, либо же она находится после, но она интегрирована всегда в сюжет.
Alors, parfois, on choisit la musique, une chanson qui nous touche, et ensuite, après, on voit comment on peut intégrer dans le spectacle.
Sometimes it's before, sometimes after, but it's always about the music.
Mais est-ce que la musique, elle a une fonction narrative? Est-ce qu'elle est là aussi pour construire, développer le récit?
Является ли музыка нарративной частью, то есть та, которая она построит, она дает драматургию какую-то?
Да, часто является, конечно. Музыка всегда подчеркивает драматургию, она, чтобы зритель почувствовал бы настроение эпизода, что ли, да? И она всегда важнейшим и в театре, и в кино, и у Резо как.
Oui, bien sûr, bien évidemment, la musique est toujours à une part de dramaturgie qu'il utilise et dans ses films et dans ses spectacles.
Pour ce qui concerne le récit, il y a une part de suspense finalement. Est-ce que les deux locomotives vont se rencontrer? Est-ce que le cirque va changer leur vie? Cette dimension, elle est importante dans ce que vit le spectateur. Il y a quand même une part qui est demandée active au spectateur dans ce spectacle. Oui. La dimension de suspense.
On говорит suspense, да, как бы то, что как цирк влияет на встречу этих двух поездов.
Ну, у поездов вроде бы все было заранее как бы просчитано, как они прожили бы совместную жизнь, но вот цирк как раз внес вот этот просчитанный их судьбу, неожиданный поворот. Так что это вот без цирка спектакль не состоялся, потому что все прошло бы, как они планировали. Mm-hmm. Они стали бы монументами.
Alors, justement, sans le cirque, bien évidemment, il n'y aura pas toute cette histoire. Donc, si le cirque n'a pas eu le lieu, les deux locomotives ont pu vivre l'histoire d'amour heureuse. Les
plans étaient tels que l'histoire se passe quand, à la fin de l'époque des paravos, et le mari, Hermon, рассчитывает на то, что уже скоро электрические бензиновые двигатели заходят, и он уже знает, что их эпоха прошла. И он рассчитывает, что они будут стоять вечно на монументе паровозам, им поставят, они их поставят на пьедесталах, и они будут вместе там жить, любя друг друга.
Alors, Hermon, c'est le personnage, donc le train masculin. Et il savait très bien que bientôt son époque va se terminer parce que le locomotive a passé à un autre mode de fonctionnement. Et il espérait qu'il pourrait être sur un monument historique et qu'il pourrait vivre heureux aussi avec Ramona.
Да, а вот цирк как раз то цирк и как урезо цирк. Это искусство. Люди, которые цирком занимаются, у него это люди, которые дали свою жизнь искусству. Они очень возвышенные циркачи. И вот это искусство цирка, оно внесло такие драматические изменения в эти планы.
Alors le cirque est un art qui est très riche et supérieur dans tous les dans toutes ces dimensions.
Один из них говорит, что искусство вечно, а жизнь коротка. Если вы видели наши спектакли.
Oui, dans le spectacle lui-même, elle dit l'art est supérieur à la vie, donc est tellement grand. Et donc la dimension du cirque et cette puissance-là aussi dans l'histoire.
Это хороший слоган, не слоган, это хорошая фраза для всех, кто находится в этом городе на данном этапе, что искусство долговечно, а жизнь коротка.
Il dit que même peut-être pour le festival, ce sera très cohérent de dire que l'art est éternel et que la vie est très courte.
Mais justement, peut-être une dernière question à ce propos. Vous disiez que les spectacles de Léo Gabriadze s'origine dans son enfance. On peut voir de la nostalgie, mais on peut aussi se dire que ces pièces, elles sont là pour que les locomotives à vapeur existent toujours, que le cirque existe toujours, des spectacles pour dire ce le monde a existé aussi comme ça avant, de garder des traces. L'art, c'est aussi pour garder des traces.
Он задает вопрос, так как искусство является для вас частью, которая несет память, ну, которая передает память.
Конечно, да. С помощью искусства можно память сделать более эмоциональным. Так она история может быть не эмоциональная, а искусство, роль искусства в памяти, она, чтобы это сделать эмоциональным, чтобы не просто мозгом вспоминать, а сердцем.
Il dit que l'art est tout d'abord est une chose très émotionnelle, qui se base sur l'émotion.
Ah oui, я много говорил, ты коротко. Еще too short. Art, the role of the art is to make history more emotional.
Oui,
and when it's more emotional, you remember better.
Oui. L'art sert à rendre l'histoire plus comme on dit en français, nous toucher, enfin nous faire rendre compte de l'histoire de façon émotionnelle, et donc ça dure plus longtemps dans nos cœurs et nos esprits.
Так я немного людей видел, что энциклопедии вот сидели бы читали бы, потому что там сухо это написано, а вот роль искусства в том, что эмоционально об этом писать.
Et donc, il y a des encyclopédies ou voilà Google voilà qui correspond à des choses très formelles, alors que l'art, oui, en effet, ça porte beaucoup. En tout cas, leur théâtre se base beaucoup sur les histoires humaines, comme ils disent, sur les histoires vécues et remplies d'émotions.
Merci beaucoup, Léo Gabriadze, pour nous avoir parlé de Ramona ce matin. Non, j'ai pas fini ma phrase. Ramona est présentée ici, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura aussi Ramona et un autre spectacle qui seront en tournée la saison prochaine, enfin la saison qui vient, en France, avec des dates à Montfort à Paris, des dates à Nice et Lyon,
Paris.
Le Montfort à Paris, oui, absolument. Donc merci beaucoup, Léo Gabrielzé. Merci.
Merci. It's so not for me. I'd like to thank Festival, first of all, for bringing us over here. Так что спасибо большое всем, кто участвовал в нашем.
So. Ah oui, ça y est, c'est revenu. Nous sommes maintenant en compagnie d'Israël Galvan et Carole Fierce qui va assurer la traduction de notre entretien pour parler de la fiesta dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Première question assez évidente, assez pratique, mais comment, Israël Galvan, avez-vous pris la mesure de la cour d'honneur avec des spectateurs qui sont pour certains très loin du plateau? Comment est-ce que vous avez pris la mesure?
Primera pregunta, ¿cómo has tomado la medida del patio de honor del Palacio de los Papas, sabiendo que hay espectadores que son muy lejos del escenario? Entonces hablamos de medidas muy concretas. Muy...
Sí. Bueno, la verdad que por dentro la impresión que me da es muy cerca. Lo veo como es un patio grande, pero la impresión de dentro es como muy de cerca. Creo que a mí es la impresión que me da.
L'impression que j'ai, oui, je reconnais que c'est grand, mais moi, l'impression que j'ai quand je suis sur le plateau, c'est que je suis très proche. C'est un sentiment de vraie proximité.
Donc ça ne change pour vous rien dans la façon de danser, dans la façon, on va parler de ce spectacle-là, mais dans la façon d'occuper l'espace de ce très grand plateau?
Entonces, para ti, para tu forma de bailar, no cambia nada de tener un escenario tan, tan ancho.
Bueno, recordando, viniendo aquí hace 10 años, al que estuve en el otro sitio, me pareció más, me dio la impresión de más aire, más abierto, como en el desierto. Sin embargo, aquí lo veo como un patio, y lo veo como la gente muy de cerca.
Alors, de mon dernier passage à Avignon avec le spectacle qui s'est donné à la carrière Bourbon, là j'avais l'impression d'être livrée à tout vent dans un espace immense. J'avais un sentiment d'immensité que je retrouve pas du tout, enfin que j'ai pas du tout dans la cour. Encore une fois, je peux que dire que là-bas j'étais dans le désert et là je suis dans un patio presque comme intime.
Alors, la fiesta, c'est un titre qui pourrait être trompeur, en tout cas quand on l'entend d'une façon générale. De quelle fête? Est-ce qu'il s'agit, Israël Galvan?
Pues el título de la obra La fiesta podría ser un título engañador. ¿De qué se trata? ¿De qué es esta fiesta?
Sí, bueno, es como me acerco yo, ¿no? Digamos yo que vengo del mundo del flamenco, ¿no? Entonces, pues, el concepto de grupo, la idea de una reunión para hacer, o sea, para expresar unas emociones, ¿no? Pues digamos que está lo más cercano es en una fiesta. La palabra fiesta está muy dentro de donde vengo yo, ¿no? Es el final, ¿no? De cualquier obra, pues se acaba con una fiesta y también la fiesta incluso, digamos, es una fiesta, se celebra, no sé, por ejemplo, en España con la Semana Santa, los toros, hay mucho recordatorio de muerte, de sangre, pero todo se reúne a una fiesta. Entonces, esa palabra, pues, digamos que va más allá de las emociones, hay muchas emociones dentro.
La fiesta, pour moi, c'est le concept de groupe, surtout l'idée de réunion et la possibilité d'exprimer des émotions de groupe. Dans l'univers d'où je viens, l'univers flamenco, mais l'univers aussi andalou, espagnol, il y a toute une série de mondes qui se superposent et se croisent. La fiesta, c'est le final d'une œuvre, par exemple, ou d'une chorégraphie flamenca. C'est toute une série de célébrations. Finalement, en Andalousie, on va de fiesta en fiesta. Il y a la fiesta des taureaux, il y a la semaine sainte, il y a la feria de abril. Donc, il y a toujours ces circonstances, en fait, qui poussent à la réunion et à l'expression de toute une série d'émotions. Et c'est ça qui m'a... Voilà.
Mais pour que les,
qui m'a
pour
guidée
que
les, vers le thème fiesta.
Vers le thème de la fête. Pour que les uns fassent la fête, vivent la fête, il faut qu'il y en ait d'autres qui travaillent. Et ça, c'est aussi votre histoire, Israël Galvan. C'est depuis l'enfance, faire le spectacle pour que la fête ait lieu. Mais vous avez souvent parlé de cette solitude de celui qui est sur scène, qui amène la fête pour les autres, mais qui n'en fait pas vraiment partie. Ce spectacle, il parle de ça aussi ?
Para que los unos puedan hacer la fiesta, los demás tienen que trabajar. Tú has comentado mucho en varias entrevistas lo que fue el universo de tu infancia, que desde chico tenías que bailar por fiesta delante de un público. ¿Puedes hablar un poco de eso?
Sentir exclu, du coup, de la fête.
De sentir tu exclusión de la fiesta. Porque tienes que procurar la fiesta a los demás, pero tú mismo eres la herramienta de la fiesta. Y si este espectáculo habla de eso, o conlleva esta idea.
Bueno, yo creo que en el subconsciente se habrá quedado algo, ¿no? De todo lo que la fiesta que he ido, ¿no? Digamos, yo la fiesta la recuerdo muy duras, porque era muy chico, entonces pues me quedaba dormido y me despertaban y yo inmediatamente salía a bailar, ¿no? Como entonces, pues luego está también la fiesta privada, ¿no? Del mundo flamenco. Entonces, digamos que se queda, ¿no? En el subconsciente todo esos momentos de cara al público. Que es otro tipo de fiesta, y hay otro tipo de fiesta en el atrás de los flamencos, que cuando los flamencos hacen su propia fiesta. Digamos que aquí hay una mezcla de estas dos fiestas.
Bah, disons, tout ce qui reste, tout ce qui affleure dans mon subconscient, de tous ces souvenirs, ces réminiscences des différentes fêtes, les fêtes publiques, les fêtes privées qu'on faisait après les spectacles, les moments face au public, et puis la fête qu'il appelle derrière, c'est-à-dire qu'on faisait dans les arrière-boutiques, les arrière-tablao, et qui se passait vraiment entre flamenco, et qui sont encore d'une autre nature, et donc, tout ça affleure dans l'idée de fête.
Alors, pour ce spectacle, donc, il s'agit aussi de faire partager au public cette fête de derrière, celle qui se joue entre artistes. C'est un paradoxe. Comment faire d'une fête privée un spectacle public ?
Pues hay un paradoje porque pues la propuesta de la fiesta es de hacer compartir delante de un público la fiesta de atrás.
Sí, yo creo la intención también un poco, creo, con lo que se hago, que yo invito al público a que mire por el ojo de la cerradura. Entonces, pues, cada público creo que tiene un... Si pudiera pudiera hacer al público ponerle una madera y un ojo, le pondría, ¿sabes? Para la impresión. Pero esa es como psicológicamente es mi intención un poco.
Bon, son intention, c'est que il invite le public à regarder cette pièce, cette œuvre, comme si c'était par le trou d'une serrure, en fait. Il est voilà, donc il dit idéalement chaque personne du public devrait avoir une sorte de toile devant et pouvoir regarder par le trou de la serrure.
Alors comment construire les conditions pour que ça existe sur le plateau ? Il faut dire aussi que pour la fiesta, vous avez réuni des artistes d'horizons géographiques, culturels très différents. Alors pourquoi avoir choisi ces artistes-là et comment vous leur avez transmis cette idée de la fête derrière ?
Pues tú has tenido que crear las condiciones de creación de esta fiesta y vienen artistas de varios horizontes, de varias culturas artísticas y ¿Por qué has elegido estos artistas y cómo le has comunicado la posibilidad de entrar en este tema de la fiesta?
Bueno, pues digamos que invito yo a esta fiesta, ¿no? Esta fiesta como es una fiesta mía, personal, como si fuera la casa mía, ¿no? Un poco. Y digamos, los invitados pues me vienen pues por recomendación o por casualidad. Me dice, oye, ¿por qué no invitas a este? O, oye, mira, te vienes a mi fiesta. O son amigos míos de siempre. Entonces, pues, es una mezcla de como ha sucedido, no ha hecho un casting, ¿no? De una planificación, ¿no? De un estereotipo, ¿no? De roles, sino que el azar ha llevado a esto.
Bah, y hay una gran parte de hasard, en fait, como en toda fête. En fait, j'ai organisé une fête, j'ai invité des artistes dans ma maison. Alors, les invités arrivent, ils sont soit recommandés par d'autres, soit ils arrivent par hasard, parce qu'ils passaient par là, soit c'est des amis de toute la vie. Il n'y a pas eu de casting, il n'y a pas eu une décision, il n'y a pas eu l'envie de trouver voilà, un artiste en fonction de telle idée. C'est vraiment le hasard des rencontres et des amitiés qui font que ces gens sont là et sont mes invités.
Mais ces rencontres, et notamment avec des artistes qui viennent vraiment de cultures très différentes, qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans votre pratique, dans votre danse?
¿Qué es lo que te ha aportado esos encuentros con artistas de otro horizonte?
Ça a changé sa danse.
¿Has cambiado la forma tuya de bailar?
Sí, yo más o menos cada obra que hago intento cambiar de forma de bailar. Quiero ser mentalmente y el cuerpo también creo que me afecta. Entonces, como intento esa regeneración, ¿no? Para seguir bailando. Siempre se quedan marcas, ¿no? Para siempre, ¿no? Se queda a lo mejor lo esencial de cada obra o algo, pero el reto para mí, lo que me viene bien para sobrevivir bailando y, mi necesidad es esa. Cada obra, un cambio mental y técnico de cuerpo.
Traslado esta primera parte y luego hablas de lo que te han aportado los artistas. Chaque œuvre, en fait, à chacune de mes œuvres, je tente de changer. Mon corps change, sous-entendu avec l'âge, il évolue. J'ai des moyens différents et il faut que je me régénère. Et en même temps, j'ai envie de continuer à danser. Donc, finalement, j'embarque de chaque œuvre précédente l'essentiel, je dirais presque le cristal de ce qui est sorti de mes œuvres. Mais c'est un défi pour moi pour survivre en tant que danseur et chorégraphe, c'est de changer et de me poser des défis à chaque nouvelle œuvre. Y entonces, ¿qué te han aportado esos artistas que vienen de otros horizontes a tu forma de bailar en esta obra precisamente?
Sí, bueno, yo la verdad que le intento robar todo lo de ellos, todo intento, yo me veo como un vampiro que le y luego me lo quedo yo, ¿no? Es una la fiesta es, al final tiene un enigma, trampa que me llevo todo, intento llevarme todo su intento, todo su estilo, su forma, su ser, para luego seguir yo un poco, ¿no? Pero me imagino que ellos igual de mí.
Bah, ce que je fais, c'est que je tente de voler, en fait. Je suis un vampire, je les vampirise, je m'approprie tout ce qu'ils peuvent apporter, de nouveaux gestes, de tonalités, leurs gestes, leur être profond et leur style. Et après, j'en fais quelque chose. Donc, et j'espère qu'ils font la même chose avec moi.
Et puis, il y a aussi le désir de faire vraiment marcher ensemble musique et danse dans ce spectacle, qui est une vraie unité de ces deux arts qui ont, dans l'histoire ou dans le flamenco classique, des séparations des murs. Là, il faut casser les murs aussi entre eux.
Hay también la idea de romper las paredes, la eterna división entre cante y baile o toque y baile en el flamenco. En esta obra precisamente hay una especie de compenetración entre música y baile que propone algo distinto a lo usual o lo tradicional.
Sí, la verdad que no he querido yo tener muy clara, ¿no? La línea de músico y la línea de baile. Quería digamos, en esta ocasión que las líneas se difuminaran y, digamos, pues los bailadores ni no parecen que bailan ni los cantadores no parecen que cantan. Y entonces ahí quería ese quitar esas marcas tan, digamos, que tenemos tan obvias nosotros de el que el guitarrista tiene que tocar, cantar, tiene que tocar. Entonces aquí hay una especie de jerga nuestra o lenguaje propio que el digamos queremos enseñar, ¿no?
Oui, il rappelle que dans le flamenco, ils sont un peu marqués au fer rouge, hein, par héritage, par tradition et par entraînement sur cette ligne de démarcation très puissante. Le guitariste joue de la guitare, le chanteur chante et le danseur danse. Et ça se reproduit un peu à l'infini. Donc lui, il voulait pas du tout une ligne claire entre ces éléments. Je dis juste en parenthèse, pour ceux qui ont vu ses précédents spectacles, il y avait déjà ce début de déconstruction dans la Edad de Oro, où notamment le film de Fiesta, il change tous les rôles. Et donc, effectivement, dans ce spectacle, les chanteurs ne chantent pas nécessairement ou ne font pas que ça. Les danseurs ne font pas forcément de la danse. Voilà, on sort de ces griffes-là et on invente un nouveau jargon.
Et pour finir, Israël Galvan, est-ce que la fiesta est différente tous les soirs ?
Y para terminar, la fiesta cambia cada noche. Con los elementos, hay elementos móviles o está muy escrito o tú hablas siempre de obra en progreso, entonces.
Sí, yo personalmente pues no cierro casi nunca las piezas, ¿no? Pero en esta verdaderamente salimos al escenario la gente y no sabemos lo que va a pasar. Tenemos un guión, pero estamos como en un alambre ahí, hay un vértigo y creo que es necesario, ¿no? Esa nosotros mismos, que no haya tanto perfeccionismo para que sea más real de cara al espectador, para que todo el espectador note que nosotros mismos estamos también casi perdidos.
En fait, je ne ferme jamais un spectacle. Il est toujours en évolution ou en mouvement constant, en ébullition. Donc il y a une trame, évidemment. Il y a des indications. Tout le monde a des indications. À l'intérieur de ces indications, il y a la nécessité que chaque interprète, en fait, trouve son propre vertige et qu'il ait une sorte de feu allumé pour être extrêmement présent au moment où il le fait. Ce qui est aussi là une des caractéristiques du flamenco, c'est-à-dire qu'on brûle devant le public. Voilà, quand on joue, qu'on brûle. Et donc, il n'y a pas non plus l'idée d'une perfection, que les choses soient arrêtées. Il faut qu'eux-mêmes se surprennent entre eux et prennent des risques pour rester vivants devant le public. Alors, il faut que le public joue le jeu aussi.
Quand même une toute dernière, mais il y a une émotion particulière de jouer dans la cour.
Hay una emoción especial, el hecho de actuar en el patio de honor del Palacio de los Papas. Un sentimiento especial.
Pues yo creo que lo voy a anotar cuando esté bailando. Entonces siempre, ahora mismo, todo lo que haya allí, toda la gente que han pasado, toda la historia que tendrá, lo notaré cuando sea la hora de la verdad un poco, es cuando se reúnen todas las emociones, ¿no? Entonces pues... Te lo contaré luego.
Oui, je vous le dirai après parce que je peux pas vous dire ce que je vais ressentir. C'est au moment de danser que je vais sentir en fait toute cette histoire, tous les gens qui ont joué là, toutes les émotions qui imprègnent ce lieu. Et là, je suis incapable de dire pour le moment avant d'être dans le moment.
Voilà. Bon, ben on se verra demain.
Je vous le raconterai après.
Après, voilà. Merci beaucoup, Israël Galvan, merci. Et merci beaucoup à Carole Fierce pour cette magnifique. Fluide traduction. Bien, suite de ce point presse, en accueillant Thomas Quilardet qui met en scène un texte de Thiago Rodriguez, Tristesse et joie dans la vie des girafes. Peut-être avant d'aborder ce texte, dire quand même que vous avez un fort tropisme pour la langue portugaise, pour le Brésil surtout et le Portugal. Si je ne suis pas indiscret, d'où ça vient ce tropisme?
C'est un long un long parcours. Je suis parti au Brésil en tant que touriste pour voilà avec un ami et très très vite j'ai fait des rencontres d'artistes, d'auteurs brésiliens. C'était en 2004-2003. Et on a décidé, avec ces artistes que j'avais rencontrés un peu par hasard d'ailleurs dans un bar, de monter un festival de théâtre brésilien en France pendant l'année du Brésil en France. Et du coup, depuis cette première accroche-là, j'ai jamais quitté le Brésil. Maintenant, effectivement, je parle la langue, j'ai un appartement là-bas, j'ai une double vie brésilienne. Et le Portugal est venu du coup par le portugais du Brésil. J'y suis allé plusieurs fois, mais c'est d'abord par le Brésil que je suis rentré au Portugal, j'ai envie de dire.
Alors, autre question préliminaire, puisque vous êtes programmé à la Chapelle des Pénitents Blancs, qui est devenue le lieu du théâtre dit jeune public, sous la direction d'Olivier Py. Quel est votre regard sur cette notion de théâtre jeune public ?
Alors c'est assez singulier parce que j'ai jamais pensé moi en tant que metteur en scène monter des spectacles jeunes publics. Ça m'est arrivé la première fois que c'est Muriel Mayette qui m'avait passé commande pour le studio théâtre d'une adaptation des Trois Petits Cochons à la Comédie Française. Et c'est vraiment une commande en fait. Je pense que le désir serait pas venu de moi parce que je pensais qu'il fallait certains codes, qu'il fallait mieux connaître les enfants que ce que je connais moi. Et en fait, très très vite, je me suis reconnecté avec des choses essentielles en fait de qui me plaisent au théâtre quoi. Et après, bah j'ai écrit une pièce aussi qui s'appelle La Rage des petites sirènes pour un metteur en scène marionnettiste. Et puis là, c'est mon troisième travail pour le jeune public. Mais je me pose pas trop la question maintenant de savoir ce que ça représente ou comment parler aux enfants. Enfin, je fais un spectacle et ça vient un peu tout seul en fait avec l'équipe aussi, mais on fait pas ça spécifiquement pour les enfants.
Alors on se rapproche là vraiment du spectacle pour savoir comment, Thomas Guilherdet, vous avez découvert ce texte de Thiago Rodrigues et qu'est-ce qui vous a donné envie. Le chemin a été un peu compliqué, vous allez en parler, de le monter.
Oui, c'est vrai. Ben, en fait, c'est une commande à la base de France Culture parce que, ayant traduit des textes du portugais du Brésil vers le français, mon nom circule un peu comme un traducteur du portugais et c'est France Culture qui m'a passé commande de ce texte pour en faire une fiction radiophonique au départ. Et quand j'ai reçu le coup de fil, je dois dire que j'étais très attiré par l'aventure, mais une aventure très, très, que je sentais très, très périlleuse, très dangereuse, parce que le portugais du Portugal et le portugais du Brésil sont vraiment des langues très, très différentes. C'est un peu comme nous, le québécois. Et j'étais, je dois dire, un petit peu en bluff au départ, parce que traduire du portugais du Portugal, je ne me sentais pas vraiment les épaules assez solides pour ça. Et je me suis jeté dans cette traduction. J'ai pris mon temps, ça a été un peu long. J'ai beaucoup interrogé Thiago aussi sur des choix que j'avais à faire. Et c'est en traduisant la pièce que j'ai commencé à avoir le goût en fait de ce texte. Évidemment, j'arrêtais pas de me projeter quel acteur pourrait faire ça, quelle actrice pourrait incarner ce personnage. Et comme je suis metteur en scène, quand le texte a commencé à circuler après la fiction radiophonique, certains théâtres m'ont demandé des mises en voix en fait du texte. Et c'est aussi en faisant ces mises en voix que je me suis vraiment pris de passion pour ce texte, pour une raison assez simple. C'est qu'une fois au Festival Terre de Parole en Normandie, il y avait dans la salle des enfants, c'était un peu par hasard, des enfants et des adultes. Et j'ai vu à la lecture du texte, à la lecture publique, que ce mélange était vraiment très très beau, qu'on rigolait pas aux mêmes endroits, qu'on n'était pas ému aux mêmes endroits, et que parfois les adultes et les enfants se retrouvaient sur des éléments de compréhension qui les touchaient au même moment. Et cette espèce de bascule comme ça dans le texte, phrase par phrase, on pourrait presque dire dans le texte qu'est-ce qui va vers le public adulte ou qu'est-ce qui va vers le public enfant, et certaines phrases qui touchent tout le monde en fait. Et c'est assez rare en fait de trouver un texte comme ça qui a ces différents niveaux de lecture, qui parle vraiment à plusieurs générations. C'est assez bouleversant même au théâtre. Là, je sors de la deuxième représentation, il y avait un petit peu plus d'enfants ce soir. C'est toujours très touchant d'entendre des rires d'adultes, puis après des rires d'enfants, un peu en décalé comme ça. C'est vraiment la force du texte de Thiago, je crois. Et il arrive à entremêler comme ça plusieurs niveaux de compréhension de manière très très habile.
Ah oui, très habile, mais alors vous pouvez particulièrement bien en parler, parce que le traducteur, c'est celui qui connaît le mieux le texte. peut-être parfois même mieux que l'auteur, mais bon, dans le cas de Thiago Rodriguez, il est suffisamment fort pour, je crois, qu'il comprenne tout ce qu'il écrit. C'est une langue qui est, en tout cas dans votre traduction, donc j'imagine c'est le cas dans l'original, qui est à la fois très concrète. Les choses sont dites de façon extrêmement concrète, puisque c'est vraiment, on va parler d'un petit peu de cette histoire, mais c'est, on va dire que c'est le monde vu à travers les yeux d'une enfant qui s'appelle Girafe, mais qui est une jeune fille. Elle a quel âge d'ailleurs ?
9 ans.
9 ans, voilà. Je ne voulais pas dire une bêtise, donc je parle sous votre contrôle, c'est plus simple. Donc on voit le monde à travers ses yeux, on peut dire ça comme ça. Et donc, les mots sont importants parce que sa mère, qui est morte, était écrivain, donc il y a tout un travail, tout un jeu sur le dictionnaire, sur l'apprentissage, sur le vocabulaire. Donc chaque fois qu'elle parle de quelque chose, une situation, cette girafe, c'est avec des mots extrêmement concrets. Et en même temps, ça donne une place incroyable au spectateur, parce qu'à travers un assemblage de mots très concrets, mais dont on n'a pas l'habitude qu'ils se succèdent pour former un segment de phrase, du coup, on a énormément de place, nous, comme spectateurs. Est-ce que vous partagez ce sentiment ?
Ah ben non, tant mieux. Oui, j'entends tout à fait ce que vous dites. Oui, parce qu'en fait, et c'est là aussi, j'ai été voir Sopro aussi hier. Maintenant, les parallèles se font de manière plus nette pour moi. Mais oui, cette espèce de confiance dans l'intelligence de la personne qui est en face, en fait. En l'occurrence, le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, dans l'écriture de Thiago, va compléter les trous manquants. Il y a tout un travail sur le son aussi qui fait dans le texte. Et le spectateur va compléter les éléments manquants et rentrer du coup dans l'imaginaire de Girafe. Et c'est un super dispositif d'écoute, en fait. C'est-à-dire que moi, en tant que metteur en scène, je peux me glisser dans cette écriture. Je sais que bon an mal an, quand même, les spectateurs vont toujours être accrochés par une nouveauté ou raccrochés des éléments de compréhension que le texte, parce que le texte est tout le temps un petit peu en suspens, en déséquilibre. On est obligé vraiment de prêter beaucoup attention à cette girafe pour comprendre sa langue si particulière. Elle a un petit côté singe savant aussi, elle a un petit côté Madame je sais tout. Mais de temps en temps, elle a des failles, elle n'emploie pas les bons aux bons endroits. Et donc, elle a une parole un peu floutée, un peu décalée, qui permet vraiment une écoute assez assidue, en fait, du spectateur, mais sans violence, en fait. Enfin, il y a une écoute très... une écoute du spectateur, je crois, ce texte qui est belle et qui est douce, quoi. Il est jamais dans l'incompréhension. Et les enfants aussi, c'est encore tout frais, mais je vois bien hier et là, ce matin, les enfants aussi sont très attentifs à cette girafe pour bien entendre ce qu'elle raconte.
Alors il y a effectivement girafe, il y a son ours en peluche, Judy Garland, il y a son père, et puis il y a un autre formidable comédien qui interprète différents rôles masculins. Quel type d'indication vous avez donné à vos comédiens, bon, sachant que trois ont le même rôle, et puis un voltigeur en occupe plusieurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit ?
Je leur ai dit d'abord, tout de suite, c'est terrible, hein, mais dans l'imaginaire des acteurs, quand on dit qu'on va faire un spectacle tout public ou jeune public, tout de suite, ils arrivent avec des codes très, 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 très basiques, quoi, avec petite voix, petit regard, toutes des choses toutes petites. Donc déjà, premier travail, c'est d'essayer de déployer les choses et d'essayer de rendre le concret de la parole, quoi, parce qu'on on est beaucoup parasité par ce code un peu du jeune public comme ça. Donc déjà, ça a été vraiment de mettre les choses à plat. Et puis l'écriture est très, très complexe. Donc on a vraiment été essayer de mettre tout ça en avant. Et après, c'était toujours cette histoire de essayer le plus possible d'être au présent, de jouer ensemble, de se regarder. C'est des trucs un peu bêtes comme ça que de direction d'acteur, mais qui sont à chaque fois que des fois on oublie quand même, parce que des fois on rentre dans une mécanique, des fois la répétition on est un petit peu fatigué, on se met un peu en mode pilote automatique parce que la veille on avait trouvé un truc bien. Et donc c'est sans arrêt redire non attendez, posez-vous vraiment la question, répondez-vous. Donc ça c'était une des premières indications. Et puis la grosse indication pour moi aussi, c'est tout le temps pour qui c'est fait. C'est-à-dire qu'aussi il y a beaucoup d'indications de phrases qui sont vers le public. Et donc je leur dis beaucoup, voilà, vous parlez au public, mais sans aller trop le chercher, vous pouvoir aussi retenir. Parce que ce qui est assez beau dans l'écriture de Thiago aussi, c'est qu'il crée une mémoire du spectateur assez forte dès le départ, parce qu'il y a un monologue initial qui pose un peu les codes du spectacle. Donc on sème comme ça des petites graines d'imaginaire dans l'imaginaire du public, et après l'acteur doit un peu se retirer pour laisser faire le public, enfin ce qu'on disait un peu tout à l'heure, quoi, laisser les choses se compléter, en fait. Donc il y a une espèce d'art du retrait de la part de l'acteur qu'on doit trouver, qui n'est pas encore tout à fait là, mais qui va se retrouver au fur et à mesure des représentations. Et c'est un petit peu ça que je leur dis en ce moment là, d'essayer de laisser un peu plus faire les choses, de se retirer un petit peu.
Parler de l'espace de jeu aussi conçu avec Lisa Navarro, votre scénographe, parce que Qui dit théâtre jeune public dit souvent peu de moyens, petite scène, etc. Mais ça, on n'y échappe pas toujours, hélas. Mais donc, du coup, surcroît d'inventivité. Et c'est pour ça que les spectacles dits jeunes publics sont des vrais spectacles tout public quand ils sont réussis. Il y a plein de... Elle traverse plein d'endroits, Girafe. Et vous payez même le luxe de plonger aussi la scène dans le noir pendant une durée assez longue, avec de très faibles lumières. Comment vous avez conçu les espaces pour ce spectacle?
On a essayé de se plonger dans son imaginaire, dans ses visions à elle, dans sa vision à elle de l'enfant. Donc on s'est dit, quand elle a peur, il faut qu'on puisse augmenter un petit peu ce trouble ou la peur. Quand elle est dans une chose très très rétrécie avec son papa, notamment tout au début, c'est-à-dire qu'en fait il y a une grande maison, mais eux c'est vrai qu'ils sont très 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 peu éclairés parce qu'elle est dans un moment étriqué de sa vie en fait, parce qu'elle est dans un moment petit où elle voit pas bien les choses, où elle se sent triste, où elle a peur, elle est un petit peu enfermée en elle-même quoi. Et justement elle essaie de travailler un espace qui au fur et à mesure se libère, parce qu'elle-même se libère, enlève ses casseroles, notamment sa casserole majeure, c'est le deuil de sa maman, c'est-à-dire dès le départ elle vit beaucoup avec, elle lui parle, elle a besoin de la voir, et au fur et à mesure du spectacle elle va apprendre ce que c'est que vivre avec le deuil, vivre avec le souvenir, parce que on parle souvent d'une pièce sur la crise économique parce que son papa est au chômage et qu'elle essaie de trouver de l'argent pour se payer la télévision câblée. Mais c'est pour moi une pièce sur comment vivre avec ses souvenirs douloureux, comment vivre avec le deuil et comment s'en libérer. Le mot n'est pas juste qu'on s'en libère jamais, mais en tout cas comment vivre à côté, quoi.
Oui, pour autant, vous avez parlé du deuil, donc parlons de la politique du coup quand même, parce que c'est vrai que c'est une pièce extrêmement inscrite dans l'histoire récente, d'abord du Portugal, certes, mais une crise économique qui traverse l'Europe. Girafe, c'est une rebelle. Elle trouve que c'est tellement la merde dans le monde qu'il faut quand même que les choses changent et qu'on peut les changer simplement en allant voir le Premier ministre en lui disant d'écrire une loi, par exemple. Pour elle, les choses sont simples. Il faut que ça change. Et pour changer, il faut s'en donner les moyens.
Oui, c'est ça. Pour moi, il y a un moment là dans la pièce où elle dit « on va faire une aventure, viens avec moi, on part en aventure à son ours ». Pour moi, elle rentre en clandestinité, en fait. Enfin, c'est vraiment cette bascule-là, un moment quand... Moi, je suis toujours assez... Je l'avais déjà dit, mais je suis toujours assez fasciné par les gens qui... notamment au Brésil, justement, j'avais interviewé plus jeune, mais à l'époque, elle était jeune pendant la dictature. Et elle s'était dit « c'est plus possible ». Elle est rentrée chez elle, elle a laissé son mari et ses enfants, et elle est rentrée dans la clandestinité. Et j'ai jamais compris, enfin, j'ai trouvé ça fascinant, ce moment, en fait, à 15h, on rentre chez soi, et à 15h15, on fait sa valise, et on décide que peut-être on ne reverra plus sa famille, parce qu'on ne supporte plus la dictature. C'est quelque chose qui me bouleverse complètement. Et à une petite échelle, à une échelle toute minuscule, mais tout aussi belle, à un moment dans le spectacle, Girafe dit, on part en aventure, et elle part en clandestinité, elle fugue de chez elle, et elle va interroger les adultes sur le pourquoi on vit une politique d'austérité, pourquoi mon papa n'a pas d'argent, en fait. C'est un niveau tout petit, mais c'est le même mouvement. Et j'adore ça dans sa pièce, à Thiago.
Alors, peut-être une dernière question, Thomas Kennardet, est-ce que vous pensez que les Maldives existent?
Alors, bonne question.
Ça, c'est une fois du teasing pour que les gens disent, mais de quoi ils parlent? Allez voir le spectacle.
Alors, j'ai envie de dire, cette phrase de Proust, là, que un bon rêveur est celui qui va vérifier si la couleur qu'il a rêvée est la bonne. Donc j'ai envie de dire, si on rêve des Maldives et si on veut vérifier qu'elles existent, faut aller là-bas, allons voir et on trouvera peut-être la solution, quoi.
Bon, rendez-vous aux Maldives alors. Merci beaucoup, Thomas Kennardet.
Merci.